Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour votre dose de énervé du soir, double dose à prendre dès 18h en avant-première sur franceinter.fr en podcast et puis à reprendre sur l'antenne 22h minuit comme tout le monde. Ce soir, trois invités avec du théâtre citoyen pour Jean-Marc Dumonté, producteur de spectacles, directeur de théâtre et en activiste de théâtre. Il programme 10 pièces engagées sur des sujets d'actualité dans plusieurs théâtres parisiens. C'est votre grand débat à vous, Jean-Marc Dumonté, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Parole citoyenne aussi pour vous, Simon Bacouche. Vous êtes comédien et membre du collectif L'Avantage du Doute. Vous reprenez la légende de Bornéo, une pièce sur le monde impitoyable du travail, scène de ménage sur le mode de la gestion d'entreprise, pétage de plomb à Pôle emploi. Vous êtes aussi au centre du film Tout ce qui me reste de la Révolution de Judith Davis. Simon Bacouche, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis séance cinéma avec Les Exfiltrés, c'est votre film Emmanuel Hamon. Faustine, 25 ans, assistante sociale en banlieue parisienne, quitte son mari, la France, et part en Syrie avec son fils rejoindre Daesh. Un aller sans retour. Emmanuel Hamon, bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, dans le Énervé la suite ce soir, on va parler EHPAD, dossier EHPAD, avec ce titre formidable que vous avez trouvé. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon vieux, Benoît Lagarde?
Ben oui, un an après les grèves qui ont marqué le monde des EHPAD, et en attendant la grande réforme annoncée par Emmanuel Macron, retour sur les conditions de vie de nos aînés. Et pour en parler, elles seront quatre. Anne-Sophie Pelletier, auteure de EHPAD, une honte française, qui vient de paraître chez Plon. Et autour d'elle, Nadine Grandot, écrivaine, Marie Offray, rédactrice en chef de Notre Temps. Et notre Patricia Martin, à nous, à France Inter, impliquée, elle nous expliquera au sein du conseil d'administration de l'EHPAD où réside sa mère.
Tiens, je vais tomber un verre. Ce sera le premier. Un verre en plastique pour de l'eau. Allez, le énervé, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Et tout d'abord, direction Raqqa, la Syrie, avec vous Emmanuel Hamon pour ce film Les Exfiltrés. Ça sort en salle demain, premier long métrage de fiction, beaucoup de documentaires avant, on va y revenir. Les Exfiltrés, c'est basé sur une histoire vraie, ça commence sur un départ, un faux départ. Faustine a 25 ans, elle est assistante sociale et elle raconte à son mec qu'elle part en Turquie rejoindre une amie, une copine, pour aider sur place. En fait, elle va partir pour 15 jours avec son petit garçon. 15 jours, c'est ce qui est prévu au départ. Mais non, fausse piste, elle va direction la Syrie. Faustine a rencontré dans le cadre de son travail des jeunes radicalisés. Sur place, ça se gâte. Faustine demande à rentrer. Le film vire au thriller. Bande annonce.
T'es le seul à pas être au courant, comme d'hab.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Ben Sylvain, l'infirmier, sa femme s'est barrée en Turquie avec son fils. Ton fils est toujours là-bas ?
Non.
Il pourrait pas aider ?
Est-ce que la nana lui a envoyé une photo entre temps ?
Une, mais bon.
Copie les coordonnées GPS dans Google. Ça dit quoi ?
On l'a localisé. C'est Raqqa.
Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. On n'a pas de service actif en Syrie en ce moment.
Il faut savoir une chose.
Autant il y a des types qui sont partis là-bas, qui se rendent compte que la réalité n'est pas là à hauteur du prospectus, et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule.
Je vais aller taper directement au ministère.
Oui, mais la Syrie, on peut rien faire.
Je voudrais juste poser une question. Vous pouvez nous aider ou pas?
Il y a 120 km, plus des patrouilles. Et la frontière, je l'ai passée. C'est très risqué.
Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire, là?
Bah, trouver l'argent, déjà.
Tu te rends compte que si ça merde, tu as deux morts sur les bras ?
Emmanuel Hamon, dans la bande-annonce, il y a cette phrase que l'on retrouve bien sûr dans le film sur la situation de ceux qui veulent rester. Les femmes ne reviennent pas. Qu'est-ce qui se passe pour elles ?
Ben, il s'avère. Alors, l'histoire que je raconte dans le film, c'est une histoire qui se passe en 2015. Hein, donc, il faut
remettre
c'est une histoire,
les
voilà,
choses dans leur contexte.
Les choses, voilà, c'est de l'histoire très fraîche, mais c'est quand même de l'histoire.
Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé aux femmes qui voulaient revenir ?
Ben, généralement, elles étaient ou liquidées par Daesh, en tout cas dans l'impossibilité totale de revenir. Faustine, enfin la vraie Faustine, est une des seules à avoir refait le chemin de retour.
À la base, c'est une histoire vraie. Vous avez rencontré les protagonistes, le mari.
Oui, bien sûr, j'ai rencontré tous les protagonistes avec avec le scénariste Benjamin Dupas.
Ouais.
On a enregistré beaucoup ces gens, on les a entendus, on leur a demandé plein de choses, de nous raconter leur histoire, leurs sensations, des impressions très quotidiennes. Et puis après, il a fallu s'emparer de cette histoire, justement de prendre une vraie distance avec cette histoire.
Pour faire un documentaire et basculer dans la fiction.
Exactement.
Vous avez rencontré donc la femme. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Elle s'appelait dans la vraie vie, elle a un autre nom. Elle s'appelle pas Faustine.
Non, aucun des personnages ne s'appelle.
On va continuer, on va dire Faustine. Faustine toujours.
Voilà.
Qu'est-ce qu'elle est devenue Faustine aujourd'hui ?
Faustine, elle vit en France, elle s'est installée en France, elle revit avec son mari et voilà, elle s'occupe de ses enfants et elle essaie de pas de justifier ce qu'elle a fait parce que c'est y a, mais de vivre avec.
Et le mari ?
le mari il vit avec elle en fait. Ils ont refait un enfant ensemble, donc leur histoire continue.
Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté qui vous a marqué le plus ?
C'est pas tellement ce qu'ils m'ont raconté qui m'a marqué le plus, c'est en fait la possibilité avec cette histoire de pouvoir traiter de cette situation extrêmement complexe dans laquelle on a tous plongé plus ou moins, avec une possibilité d'abord de ne pas s'intéresser qu'au problème qui est un problème en lui-même de la radicalisation. Je pense que c'est pas le problème principal du personnage de Faustine et c'est ça qui m'intéressait beaucoup au départ. C'est-à-dire que Faustine part pour plein de raisons et
elle part pour aider en Syrie les enfants et les femmes enceintes, voilà.
Des mauvaises raisons
parce que a priori de bonnes raisons pour elle.
Oui, le résultat est mauvais mais elle part pour elle se trouve pas assez intégrée dans ce pays qui est le sien, la France, ça ne va pas bien dans son couple, enfin bon voilà. Donc ça c'était une possibilité pour moi de faire un chemin avec ce personnage et peut-être de pouvoir même intéresser le spectateur à un moment à son voyage, à son énergie qui va vouloir revenir de là-bas et sauver son enfant. Et puis il y avait surtout cette possibilité avec cette histoire assez incroyable. Enfin, souvent on dit la réalité dépasse la fiction. Là, on y est en plein. Une possibilité d'un thriller, c'est exactement ce que vous disiez au début, c'est-à-dire un film qui puisse quand même embarquer le spectateur dans un truc où il voit l'horloge qui fait tic tac tic tac tic tac.
Et c'est pas simplement une leçon de géopolitique.
Voilà, exactement. De se demander comment ça va se terminer. Et évidemment, moi je suis le plus heureux des réalisateurs si à la fin du film les gens ont vu un thriller qui leur a plu et en même temps ils s'interrogent sur la complexité de toute cette situation et de ces personnages.
Emmanuel Mont, c'est votre premier long métrage de fiction, alors que vous avez beaucoup tourné, des documentaires sur Sarajevo, la Révolution russe, la guerre en Irlande, Maurice Papon. Passer à la fiction, ça vous permettait quoi cette fois-ci ? Pourquoi ne pas traiter le sujet sur un mode documentaire ?
Ben justement parce que d'abord j'avais une vraie envie de fiction, que cette histoire vraiment s'y prêtait, c'est-à-dire en parlant de choses qui m'intéressent, des individus contre le système, à l'intérieur d'un système, une violence d'État, de politique. Et puis en même temps, il y avait une dimension qui est très très importante. Donc il y avait la dimension du thriller, voilà, qui appelle quand même le film de cinéma, de genre, éventuellement. Et puis il y avait surtout la promesse de personnages extrêmement riches, enfin moi, je suis vraiment, je m'intéresse à un film de cinéma quand les personnages sont forts et qu'ils évoluent. Donc là, il y avait vraiment 4-5 personnages extrêmement prometteurs par rapport à ça.
Chacun, vous aviez entendu parler de cette affaire à l'époque, donc cette jeune femme qui avait pu revenir de Syrie, Jean-Marc Dumontet.
J'avais pas entendu parler de cette affaire, mais il y a un certain nombre de cas similaires, oui. Et c'est vraiment troublant les raisons du départ, parce qu'effectivement, il y a aussi des motifs d'ordre purement privé, souvent. C'est pas que des gens qui sont en quête de radicalisation, c'est des gens qui sont en échec dans leur vie, qui s'interrogent sur le sens de leur vie. Et ensuite, qui vont commettre des choses assez invraisemblables. Mais à la base, ils sont tout à fait lambda. Mais c'est comme ce type qui a fait tout un tas de croix gammées à Paris, qu'un DESS, qui est employé territorial, et qui va dessiner des croix gammées tout à coup. Enfin, il y a tout à coup, chez les individus, une bascule qui est toujours extrêmement surprenante.
Simon Bacouche, vous aviez entendu parler de cette histoire ?
Non, je n'avais pas entendu, mais c'est vrai, quand on est près de ça, qu'on écoute, on a vraiment envie de s'en approcher de plus près, ça fait vibrer tout de suite.
Ouais. Et surtout le parcours de cette femme qui va s'enfuir et qui va réussir à déjouer les membres de Daesh à cette époque-là. Juste une question, comment s'est passée la véritable exfiltration de la femme dans la réalité ? Parce qu'on voit dans le film, notamment, que les services français, à l'époque, en 2015, n'étaient pas du tout intéressés en fait par elle ou par son enfant. C'était que de toute façon, faire quelque chose en Syrie était impossible à l'époque. Ça s'est passé comment pour elle ?
Oui, enfin les grandes lignes dramatiques du film sont respectées.
D'accord.
Après moi, ce qui m'intéressait vraiment par rapport à ce que vous dites, c'est justement de raconter aussi un film presque générationnel. C'est-à-dire qu'il y a trois personnages principaux importants dans ce film qui sont Faustine, donc justement
issue d'un milieu social, donc la banlieue.
Banlieue française, milieu social compliqué. Un jeune Syrien, un activiste syrien, un résistant syrien qui décide de fuir son pays.
Réfugié politique. Migrant.
Exactement. Et le troisième, qui est joué par Finnegan Oldfield, Gabriel, qui est un jeune français, plutôt d'un milieu social privilégié.
Fils de médecin.
Voilà, fils de médecin, et qui, lui, veut s'engager sur le terrain, concrètement, plus concrètement que ce qu'il fait dans une ONG au départ du film. Et ces gens-là, cette génération qui a plongé dans ce conflit-là, se heurtent, évidemment, au pouvoir politique en place à ce moment-là, qui est le pouvoir français, en l'occurrence, mais qui est à peu près à l'image des pouvoirs occidentaux, qui ne veut pas intervenir pour sauver cette femme, qui ne veut pas intervenir dans cette situation, comme le dit d'ailleurs dans la bande-annonce. Très justement l'espion des services secrets joué par Xavier Legrand. Donc voilà, il y avait vraiment cette histoire aussi de conflit de génération, d'engagement d'une génération qui était très important pour moi à raconter.
Alors, c'est pas un documentaire, mais dans cette équipe d'acteurs tous très repérés, il y a Charles Berling, il y a Giscard Calvanda qu'on avait vu dans le film Divine, il y a aussi bien sûr Swann Harlow qui avait eu le César pour Petit Paysan, il y a quand même un acteur non professionnel qui donne une dimension presque documentaire, il s'appelle Kassem Al-Khodja, qui joue donc le rebelle syrien qui a été torturé deux fois par le régime de Bachar al-Assad, puis par Daesh, un rebelle qui veut quitter la Syrie pour la France. Un mot sur le choix de cet acteur, sur son parcours qui n'est pas sans lien avec l'histoire du film.
Absolument, moi c'était très clair pour moi que je ne voulais pas faire jouer le rôle d'Annan, donc ce réfugié syrien, par un acteur maghrébin, ou je voulais vraiment que ça soit un Syrien. Donc c'était compliqué, parce que en l'occurrence Kassem, qui fait finalement le film, n'a jamais joué de sa vie.
Non, c'est vraiment la première fois à l'écran.
Voilà, absolument. Et tous les autres personnages syriens qui sont assez importants dans le film sont des Syriens qui n'ont jamais joué, qui ne sont pas comédiens. Mais c'était vraiment très important pour moi parce que ça, il y avait une authenticité et qu'on pouvait pas inventer, même avec un acteur génial. Il y avait quelque chose avec lequel on ne pouvait pas tricher. Et tout le monde était confronté à ça. Ça a infusé le tournage, si je peux me permettre cette expression. Ça a infusé le jeu des comédiens français. Ça a infusé
C'est un réfugié dans la vraie vie?
Oui, oui, il est arrivé vraiment fin 2015 en France par le chemin habituel, la mer, la traversée des pays, etc.
L'Italie.
Exactement. Le vrai chemin de Kassem, c'est pas loin d'être le chemin d'Annan et c'est pas loin d'être le chemin de tous ces millions de réfugiés syriens.
Alors, vous n'avez pas tourné au Maroc comme bon nombre de vos confrères, hein, généralement ils font ça, mais en Jordanie.
Oui, c'était...
Comment ça s'est passé le tournage? Parce que ça ne veut pas être évident non plus en Jordanie.
Non, c'était dans la même idée, c'était vraiment d'aller au plus proche de à quoi ressemble la Syrie. Donc, la Jordanie a des frontières avec la Syrie. Ouais. Il y a 1 million de réfugiés syriens aujourd'hui en Jordanie, donc heureusement pour moi, malheureusement, c'est un vivier pour justement ces seconds rôles dans le film. Évidemment, après l'idée, par exemple, de costumer des comédiens pour faire des membres de Daesh dans les rues d'Amman, ça a occasionné un certain nombre de descentes de police sur le tournage.
Je peux imaginer, ouais.
Parce qu'évidemment, les gens se disaient, ça y est, Daesh est à Amman. Ouais. Donc évidemment, on est très proche de l'histoire vraie, de la réalité. Elle est là à côté. Quand on tournait, en plus, la guerre n'était pas terminée. Pour peu qu'elle soit terminée aujourd'hui, mais en tout cas, donc c'était vraiment à côté, quoi.
Je vous voyais sourire, Simon Bakouche, à cette idée que quand on déguise les acteurs en Daesh, la police débarque.
On imagine la panique.
Ouais.
Ce qui peut se passer, ça veut dire que on met la fiction en plein. Plein la vie, et du coup, ça crée quelque chose.
Oui, c'est ça. Une espèce d'émotion, de choses assez incroyables. Il y avait des Syriens qui jouaient des rôles dans le film, et ils venaient eux-mêmes de Raqqa, ils avaient fui Raqqa, et donc l'émotion était toujours là. Enfin, il y avait quelque chose. Ils racontaient des choses qui n'étaient pas le film, mais qui étaient presque le film. Enfin, bon.
Ils vous racontaient quoi, en fait, justement, de ce qu'ils avaient pu vivre? Vous avez tourné quand?
On a tourné cette année là.
Cette année.
Là en 2018, oui.
Cette année, vite.
On a tourné entre mars et juin.
D'accord.
Donc Daesh n'était pas encore tombé. Ouais. Raqqa n'était pas encore tombé.
Exactement.
À ce moment-là.
C'est pour ça que je vous pose cette question.
Donc c'était vraiment très 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 proche. Il racontait plein de choses qui vont de comment se passait la vie de tous les jours à la violence de Daesh, les prisons, la torture, la violence. Enfin, tout était là en fait, tout le temps présent.
Alors, tout à l'heure, je disais que vous aviez tourné beaucoup de documentaires, mais vous avez commencé par la fiction en étant assistant réalisateur, et pas des moindres. Hein. Patrice Chéreau, Maurice Pialat, Robert Altman. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous ont marqué de leur direction d'acteur, de leur façon de travailler, qu'on retrouve aujourd'hui dans la façon que vous avez de travailler votre propre fiction?
Moi j'ai beaucoup aimé être assistant, j'étais très jeune, et il y a un tournage particulièrement qui m'a marqué parce qu'il était incroyable et parce que le réalisateur était incroyable, ce qui est tout très important pour un assistant souvent. C'était le tournage de La Reine Margot avec Chéreau. Et oui, Chéreau, c'est quelqu'un en plus qui partageait énormément son travail, donc je pense que tout le rapport avec les comédiens, l'importance des comédiens, l'énergie, l'idée d'être toujours un peu intemporel de ce qui était le cas de La Reine Margot. C'est quelque chose qui sont des choses qui sont revenues à certains moments du tournage.
Mais alors pourquoi avoir choisi le documentaire plus que la fiction pour faire aujourd'hui, après tout ce parcours, un premier long métrage?
Parce que les sujets qui m'intéressent sont souvent des sujets sociétaux, politiques, d'engagement. Donc il s'est trouvé que quand j'ai fait des courts-métrages à la fin de mon parcours d'assistant, ces courts-métrages m'ont ouvert la porte du documentaire et que j'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai appris très très bien mon métier de réalisateur comme ça. Le montage, entre autres, qui est vraiment une forme d'écriture très importante en documentaire. Je pense que c'est le documentaire est une école incomparable. Et puis voilà, bon, je sais pas, les choses se passent dans la vie, et elles se passent plutôt bien et au bon moment, donc.
Les documentaires plutôt politiques ou sur l'histoire politique?
Oui, j'ai fait des documentaires. Vous parliez tout à l'heure d'un portrait de Papon, mais qui était plus sur l'idée justement de servir son pays jusqu'à quelles étaient les limites de violence politique et de lutte pour des conflits d'indépendance comme le conflit nord-irlandais. Un film aussi sur le cinéma russe au moment de la Révolution de 17. Donc, on peut dire que oui, c'est sans faire ma psychanalyse, je pense que je suis intéressé par les figures engagées, quoi.
Tout à l'heure, vous disiez que c'était le film d'une génération, de trois milieux différents. Vous venez de quel milieu, Emmanuel Lamont ?
Moi, je viens d'un milieu très particulier. J'ai eu un père qui m'a eu très tard, qui avait fait la résistance. Donc, je suis très anachronique, en fait. Mes copains, quand j'étais au lycée, avaient pas du tout les mêmes repères que moi. Ils étaient plutôt, c'était plutôt la génération des années 70, plutôt très à gauche. Mon père était d'ailleurs pas forcément à droite, mais mon père était résistant, plutôt gaulliste.
Quand vous dites que vous n'aviez pas les mêmes repères, c'est-à-dire quoi? Ils avaient quoi comme repères en musique? Vous étiez plus années 50 que...
J'étais pas très musique très jeune. Ça, j'ai découvert la musique un peu plus tard. J'étais plus lecture du monde.
D'où cette conscience politique que vous avez, parce que je me suis demandé quand même qu'est-ce qui...
Non, bah, je pense que la figure de l'engagement, je pense que la figure ultime de l'engagement, c'est sans doute le résistant au XXe siècle. Donc oui, je pense que...
Il vous a raconté son histoire?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il m'a raconté son histoire. Et puis, souvent, quand les hommes ont des enfants plus âgés, ils racontent, ils ont plus le temps de raconter leur vie que plus jeunes.
Alors, on vous a demandé à chacun un son pour mieux faire connaissance. Vous avez choisi, vous, un son de sport.
Oui, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas.
Allez.
Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match ! Quel match !
Je crois que je pourrais jamais être présentateur. J'arrive pas à être aussi enthousiaste que ça.
C'est un but très important.
En plus, il est français.
C'est un but très important, c'est mon Bakouche.
Oui, parce que moi, je suis le foot de près. Et ce but, c'est extraordinaire, ce but. En plus d'un petit gars qui est sélectionné au dernier moment, un peu inconnu, et qui est arrière plutôt, et qui plante un but... qui permet à la France de
qui est sublime par ailleurs.
Alors c'est quoi cette histoire?
Alors c'est quoi cette histoire? Bah c'était justement, j'allais pas prendre un son forcément de politique, l'engagement et tout, même si on a qui m'en ont beaucoup bercé. C'est un match donc qui s'est déroulé l'été dernier pendant la Coupe du monde et c'est surtout un super souvenir pour moi. J'aime bien le foot hein, mais c'est un super souvenir parce que d'abord j'étais avec un de mes fils petit qui donc vivait sans doute sa première Coupe du monde. Tant mieux pour lui, les Français ont gagné et surtout ce match, on l'a vu près de la place de la République, dans un café qui avait une terrasse immense, archi bourrée, avec les gens qui s'arrêtaient partout dans la rue, une espèce de mélange de fêtes, de policiers qui arrêtaient de faire leur métier, donc la circulation était complètement bordélique, anarchique, etc. Il sifflait avec son sifflet le policier à chaque but de la France. Et c'était un moment très joyeux. J'ai trouvé ça, on pourrait dire, une espèce de parenthèse enchantée, justement par rapport à tout ce qu'on se raconte là, qui sont des choses un peu... le monde est compliqué, tendu, un monde d'adultes, etc. J'ai trouvé ce moment-là une bulle formidable. Donc c'est un moment très heureux et puis un moment partagé avec un enfant, son enfant, c'est formidable.
Jean-Marc Dumonté, vous aviez suivi aussi ça ?
Moi j'ai suivi tous les matchs parce que de l'équipe de France, hein, j'entends. Parce que ces moments de partage sont assez rares et extrêmement joyeux et je suis heureux quand tous les Français se rassemblent. Et hélas, c'est qu'autour du sport. Et c'est dommage parce que ça prouve qu'on peut se rassembler. Donc, j'aimerais qu'on communie autour de valeurs autres que les valeurs sportives, même si elles sont importantes. Mais oui, je vis ça avec enthousiasme, parce qu'on fait peuple et on fait nation en ce moment-là. Donc, ça a vraiment du sens pour moi. Et je nous crois forts en ce moment-là, et je nous vois fiers surtout. Et j'aime bien quand les gens sont fiers, parce que comme ça, ils sont optimistes, ils sont enthousiastes et ils embrassent la vie.
C'est vrai que la fête n'a pas duré longtemps après la Coupe du Monde. Les Exfiltrés, ça sort demain en salle, vous restez avec nous, Emmanuel Lamont. On va parler théâtre avec nos deux autres invités. Tout de suite, Tôt ou tard, Evie Rose dans le NRV.
Par où commencer? Fait perdre le fil de ma pensée, mes
cesse de me hanter. Tu es le secret que j'ai gardé. Il suffisait d'y croire. Nous aurions pu courir le monde comme deux âmes vagabondes. Tu es ma lumière dans le noir. Comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent. Tu es la beauté, le mal en même temps. Mais tu m'as sauvé du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Un pari que je perds. Encore un autre coup de tête. Oh, c'est un rêve éphémère dont seul toi tiens les rênes. Il suffisait d'y croire. J'entends le château qui s'effondre, abandonné sous les décombres. Pour toi, ce n'est qu'un au revoir. Comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent. Tu es la beauté, le mal en même temps. Mais tu m'as sauvé du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Rien n'est prévu. Je vois la fin. Je vois la fin avant le début. Prévu. Je vois la fin, je vois la fin avant le début. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Maintenant qu'on s'est bien usé, qu'on y a laissé nos vies, allez hop, à la poubelle.
Fini ! Dégagez ! Y'a plus rien à voir ! Prends tes clics et tes claques et casse-toi !
Enfoiré !
Capitaliste !
Profiteur !
On est peut-être des petites bonnes femmes de rien du tout, mais on se laissera pas faire.
À partir de maintenant, on occupe l'usine. Jour et nuit, s'il le faut.
On campera au milieu des machines, on fera la grève de la faim, s'il le faut.
Notre décision est prise. Nous, on va résister.
Très énervé, cet extrait d'À plate couture, une pièce de Carole Thibault sur la révolte des ouvrières de l'usine Le Jabi qui déposait le bilan en 2012. Ça donne la dimension de ce que vous mettez en place, Jean-Marc Dumontet, avec Paroles citoyennes. C'est un projet de théâtre social et politique, 10 pièces suivies de débats, programmées dans plusieurs théâtres parisiens, dont certains vous appartiennent, le Théâtre Libre ou le Théâtre Antoine. C'est la seconde édition avec au programme, par exemple, Les Chatouilles sur la pédophilie, on connaît le film aussi, Lettres ou pas sur l'antisémitisme, le débat Mitterrand-Chirac de 88. Les débats, ensuite, ça marche ou vous ne prêchez que des convaincus ?
On prêche souvent que des convaincus, parce que les gens qui viennent voir des spectacles, parfois ils les découvrent, mais souvent c'est parce que le thème les intéresse. Mais je pense que c'est bien de débattre. C'est bien de débattre. Et puis surtout, dans notre pays, on a la chance de pouvoir débattre.
Donc, en ce moment, c'est d'actualité.
Donc il faut le faire. Il faut le faire. Et si, vous savez, si on arrive à convaincre 2 ou 3 personnes et si on arrive à nous rendre un peu plus civilisés, on aura progressé. Donc moi, je ne prétends pas à l'universel. Je considère que chaque citoyen, il doit apporter sa contribution à l'édifice de notre société. Donc c'est le but. On a des spectacles citoyens, on a des spectacles qui interrogent, on a plate couture, par exemple, sur l'affaire Le Jabi, peut-être qu'il y aura des gens qui seront en accord, en désaccord sur cette mondialisation que nous connaissons, que nous traversons tous. Il y a des débats, parfois c'est très consensuel, effectivement, c'est très consensuel, parfois ça le sera moins. Et le but, c'est d'interpeller chacun. Le but, c'est de montrer qu'il y a du débat. Et le but, comme je le disais, c'est que nos sociétés soient plus pacifiées, apaisées, et qu'on ait envie d'avancer ensemble. Et je préfère le débat à des combats nauséabonds. Voilà.
Simon Bakouche, vous auriez pu être aussi dans la programmation avec votre pièce sur le travail, on va en parler tout à l'heure. Comment vous regardez ce type de projet, les débats, sur l'enjeu d'une pièce qui a été montrée juste avant ?
Déjà, nous, on conçoit le... Enfin, je dis nous, parce que je vais parler au nom de
l'avantage... Vous êtes un collectif, hein, voilà, l'avantage voilà, du doute. Voilà.
C'est pour ça que j'ai amené plein de notes, parce que j'ai peur d'oublier des choses.
Oh non, non, vous n'allez pas tous les citer. Non, allez-y. Non,
je vais pas les citer. Et donc, en fait, oui, enfin, quand on crée un spectacle, le but, c'est que ça se prolonge sur le trottoir devant le théâtre. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est vraiment d'échanger, de pas donner des solutions de convaincre, mais que les gens aient envie de parler, reconnaissent des choses dans ce qu'on propose... une espèce de dialogue qu'on fait avec le public, ça va avec notre style de théâtre.
Style de théâtre très engagé, on en parlera tout à l'heure avec vous. Alors là, ça se passe pas sur le trottoir après, ça se passe immédiatement dans la salle. Moi, je me suis demandé, Jean-Marc Dumonté, comment vous en êtes arrivé au théâtre pour aujourd'hui mettre en place ce type de projet. Au départ, vous êtes issu de la bourgeoisie bordelaise, catholique, de droite, passé par le journalisme. Vous vouliez être notaire, je crois, c'est ça?
Non, c'est ma famille qui me destinait. Puisque mon père était notaire et mes deux grands-pères étaient notaires. Donc,
il y avait vous un avez vrai... bifurqué.
J'ai bifurqué. J'ai fait droit, hein. J'ai fait droit, j'ai fait Sciences Po, et ensuite j'ai bifurqué.
Homme d'affaires aussi, il y a les années Pins, hein, l'importation de Pins, les pizzas aussi à domicile. Comment le théâtre est arrivé dans votre vie?
Parce qu'en 91, j'ai vu une pièce qui était géniale, qui s'appelait La Java des Mémoires, dans un petit village de 900 habitants, Montclar en Lot-et-Garonne. Et j'étais tout jeune, j'avais 25 ans, et j'ai décidé d'aider ce projet. Et donc j'ai produit cette pièce, et de fil en aiguille, j'ai trouvé ça assez formidable, une salle qui vibrait, une salle qu'on interpelle. Et j'ai trouvé ça formidable d'avoir des projets dont on était fiers. Et vous me parliez tout à l'heure des débats. On a fait les débats autour de Chatouille, cette pièce sur les violences sexuelles commises sur les enfants. Et je peux vous assurer qu'à la fin du débat, même si évidemment tous les gens étaient... sensibilisés à cette cause. Pour certains, ils l'avaient vécu, mais pour d'autres, ils écoutaient, ils découvraient, comme moi, au départ de cette aventure. Et quand tout à coup, vous êtes sensibilisé à ce fléau qui touche 130 000 enfants par an, vous vous dites qu'on a des choses à faire pour améliorer le quotidien et que si nos enfants sont alertés sur ce fléau, ben, ils risquent d'être moins victimes de prédateurs. Donc, on ne prêchait pas que des convaincus, on alertait des citoyens ce jour-là. Donc, mon parcours, c'est aussi celui d'un citoyen. C'est, j'ai fait beaucoup de métiers, je continue à faire beaucoup de métiers, à diriger des théâtres, mais ce qui est important pour moi, c'est que c'est du sens, tout le temps. C'est que c'est du sens. Et en créant ce festival Parole Citoyenne...
Deuxième édition. Hein.
Deuxième édition, oui, je suis hors du grand débat. Hein, ouais. Je ne suis pas une annexe du grand débat.
On aura bien compris. Même si vous avez des liens avec le pouvoir, on va y revenir aussi.
Ça, je vous laisse y revenir, je ne sais pas si j'en parlerai, mais...
Ah ben, en tout cas, je vous poserai la question, vous verrez
mais,
bien.
Chacun en apporte notre contribution au débat. C'est très important pour moi. Et le théâtre, il interpelle très souvent. Et comme disait mon voisin, on partage un moment ensemble. Et puis ensuite, on en reparle chez soi. Et les idées infusent. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup de spectacles. Les idées infusent et chacun fait son petit chemin avec. Voilà. Et nous, on fait en plus des débats.
Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va aller voir une des pièces que vous programmez?
Écoutez, c'est pas prévu. Et je lui ai remis le programme, mais je l'ai pas invité particulièrement.
Moi, je vous pose cette question parce qu'on sait que vous êtes devenu un des proches du pouvoir, au point qu'on vous aurait demandé même de constituer une nouvelle équipe de communication. C'est bien cela?
Alors, vous savez, moi, quand vous travaillez pour quelqu'un, c'est pas pour en parler, je crois. Il faut se donner ce...
Alors, pas parler de lui, mais de parler de la fonction que vous occupez.
Non, mais j'ai pas de fonction. J'ai été proche pendant la campagne, parce que je l'ai beaucoup suivi pendant la campagne. Ensuite,
Vous l'avez même aidé à prendre la parole. En tout cas, critiquer
je faisais des notes après chacun de ces meetings et j'en ai suivi beaucoup. Et c'était passionnant à faire, sur le fond et sur la forme.
Vous l'avez amélioré sur quel point?
Je ne prétendrai pas l'améliorer parce que je pense que c'est un formidable émetteur et que c'est quelqu'un qui fait son miel de ce qu'on peut lui dire ou pas. Mais je répète ce que je vous dis, quand vous cherchez à servir quelqu'un ou aider quelqu'un, c'est pas pour en parler derrière.
Alors, ce sera la dernière question là-dessus. On repassera sur les débats et sur les pièces dans quelques instants. Cette proximité avec le pouvoir, avec Emmanuel Macron, est-ce que ça a été bien vu dans le milieu du théâtre, Jean-Marc Dumonté, vos collègues?
Alors, vraiment, c'est pas mon souci. C'est pas mon souci. Moi, je suis un citoyen. Comme tout citoyen, j'ai droit à des engagements. Je considère que sa réussite pour le pays est absolument nécessaire. Qu'aujourd'hui, on voit une grande vague qui a conduit au Brexit, c'est-à-dire quelque chose d'hystérique. On voit l'Italie, on voit les États-Unis. J'ai pas envie de ça pour mon pays. J'ai envie d'un pays serein qui affronte les grandes transformations. Et je pense qu'on a eu de la chance d'élire ce président. Et moi, je souhaite qu'il réussisse. C'est des convictions, d'autres peuvent en avoir d'autres. Mais voilà, c'est ça ma démarche. Ensuite, ce que pensent les uns ou les autres de ma démarche, c'est pas mon souci. Je trace mon chemin, j'essaye de tracer mon chemin, j'essaye de l'aider si je peux l'aider, de façon très modeste et de façon infinitésimale. Les opinions des autres ne sont pas importantes pour moi.
Vous travaillez, vous avez fait plusieurs métiers, vous venez de le dire, vous travaillez aujourd'hui un théâtre engagé, plutôt même ambitieux dans le cadre du théâtre privé, ça faut vraiment le noter, par exemple en ce moment au
Théâtre Libre.
Dire le Comédia, nouvellement le Théâtre Libre, il y a le Misanthrope.
Mise en scène par Peter Stein.
Avec Lambert Wilson qu'on a reçu, puis alors, pas que Lambert Wilson, oui. Le casting est vraiment impeccable, on avait reçu ici Lambert Wilson. Donc vous avez tout cet engagement au niveau du théâtre. Est-ce qu'il y a une autre ambition politique beaucoup plus frontale serait possible? La mairie de Bordeaux vient de se libérer, par exemple, pour le Bordelais d'origine que vous êtes. Marc Dumontet, non.
En 89, j'avais 23 ans, j'étais sur la liste de Jacques Chaban-Delmas.
Vous voyez.
Donc, c'est des choses qui me parlent. Maintenant, c'est changer radicalement de vie.
Mais ça, vous l'avez déjà fait.
Bien sûr. Et puis, on n'a qu'une vie, donc il faut qu'elle soit riche. Hein. On n'a pas d'autre solution. Il faut vraiment qu'elle soit riche. Moi, je ne suis pas en posture de demander des choses. J'aime faire les choses. Donc, Alain Juppé a pris de court tout le monde. Ouais. Ses propres électeurs, d'ailleurs, c'est quand même assez surprenant de quitter une vie comme ça. Ça fait volte-face. Enfin, c'est un abandon que je trouve extrêmement violent. Je ne me suis pas positionné non pour aller sur la mairie de Bordeaux. J'ai 6 théâtres, vous savez. J'ai beaucoup de spectacles qui me passionnent et qui m'enthousiasment. Je suis toujours à réfléchir à celui d'après. Aller tout arrêter pour partir en politique, j'adore la politique, mais c'est un vrai défi. Je ne me le suis pas posé pour l'instant.
Au niveau des 10 pièces qui sont programmées, donc il y a les chatouilles, il y a des pièces sur l'antisémitisme, sur la question des migrants, quelle serait celle, à titre personnel, qui vous a le plus touché, Jean-Marc Dumontet ?
Incontestablement Chatouille, parce que c'est l'histoire incroyable d'Andréa Bescon, c'est l'histoire d'une résilience et c'est un immense espoir. C'est à la fois un cri de colère, c'est la danse de la colère, le sous-titre de ce spectacle, et c'est une formidable résilience. C'est-à-dire que même avec les choses les plus noires, Andrea est arrivée à rebondir avec une force incroyable, et c'est ça qui me fait croire en l'humanité. C'est qu'on a cette capacité de rebondir et de se réinventer, quelles que soient les horreurs qu'on a pu connaître. Et je trouve qu'il y a une force dans ce spectacle qui m'émerveille.
Vous avez été comédien ?
J'ai jamais été comédien. Non, je suis pas.
Vous avez
je suis
jamais
pas
proposé.
Je suis pas un producteur frustré parce qu'il aurait aimé être sur le set.
Voilà.
Mais non, on me l'a jamais proposé. On me l'a jamais proposé. Et je crois que c'est une bonne chose parce que je suis très heureux dans ce que je fais, donc j'ai pas besoin d'embrasser d'autres carrières.
Il y a d'autres théâtres que vous allez posséder comme ça. Il y en a d'autres qui se libèrent.
Non, mais
que vous allez protéger d'ailleurs.
Ce sont des opportunités parce que vous savez, j'ai mis 20 jours pour acheter le théâtre Antoine. Voilà, j'ai mis 2 mois pour acheter Bobino, et à la fois les Folies Bergères sur lesquelles je m'étais penché, j'ai mis 6 ans à les racheter, au bout de 2 ans j'en suis parti. Donc au fond, on achète parfois les théâtres qu'on ne souhaite pas, et on écrit de belles aventures. Donc c'est quelque chose de totalement irrationnel, c'est ça l'objet de mon développement, c'est dire que ça peut mettre 20 jours ou 6 ans, et que c'est irrationnel, parce que le théâtre que vous souhaitez ardemment, comme les Folies Bergères, je suis parti au bout de 2 ans parce que je me sentais pas bien. Je me sentais à l'étroit, j'avais un associé qui est tout à fait correct, qui était le groupe Lagardère, mais au fond j'étais pas soluble avec un associé, je préférais faire mon chemin tout seul. Donc c'est des choix un peu irrationnels, et oui, évidemment, comme je suis à la quête d'aventures, j'ai envie d'autres théâtres, mais pour les colorer et pour imaginer des choses.
Emmanuel Macron, je vous vois sourire.
Non,
j'allais dire Emmanuel Macron.
Ouais, non.
Emmanuel Macron, je vous vois sourire.
Non, mais je trouve ça très juste. Ah bah, on n'a qu'une vie, la vie doit être remplie et il faut pas avoir de regrets. Ça, je suis à fond pour cette philosophie.
Alors, on vous a demandé aussi un son qui vous a marqué, un son qui fera plaisir à Simon Bacouche.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
Vous inquiétez de savoir si j'allais vous demander pour quelle raison, Jean-Marc Dumontet.
Oui.
Mais bien sûr que je vous demande la raison de cette chanson.
Ça vient clore le merveilleux spectacle d'Alex Lutz qu'il fait à cheval. D'accord. Fait à cheval. Et Alex, donc, qui vient d'avoir un César du meilleur comédien avec son film Guy, qui est un ovni artistique, et qui est vraiment, Alex, c'est mon fils artistique, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'affection. Et Alex devait écrire son deuxième spectacle après le premier spectacle où il avait eu un Molière qui avait été vraiment couronné par un grand succès, une grande estime. Et Alex n'avait plus envie de faire rire. Et deux mois avant d'écrire ce spectacle, il n'y arrivait pas. Et Alex m'a dit, j'en ai assez de faire rire, je veux plus faire rire. Il m'avait demandé six mois avant, je veux faire le spectacle à cheval. Et j'avais dit, ok. On avait réservé 14 Olympia quand même. Et deux mois avant, vraiment, le spectacle n'était pas écrit. Et il était en pleine révolte. Voilà, j'en ai assez de la dictature du rire. Et j'ai dit à Alex, bah, écris sur le doute. Voilà. Et puis Alex a pensé à Anne Sylvestre. Et ça vient clore le spectacle. Et c'est un moment très, très émouvant. Voilà, à cheval, et cette chanson évidemment sublime sur les gens qui doutent.
Sur les gens qui doutent.
Il faut aussi qu'on doute, il faut qu'on soit plein d'enthousiasme et que tout le temps on doute, parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur.
C'est même l'intitulé du collectif de Simon Bacouche. C'est pour ça que je vous parlais de vous, l'avantage du doute.
Bah, c'est un beau nom.
C'est un bel hommage.
Ouais, c'est un bel hommage, c'est vrai. Bah, nous, ça s'appelle l'avantage du doute, parce que d'abord, on s'est rencontrés sur un spectacle qu'on a joué avec un collectif flamand.
L'été Gestane,
enfin un membre de ce collectif. Et donc on a inventé le spectacle et lui, le gars de Tégestane, il a trouvé le titre, l'avantage du doute. Et après, quand on a fondé notre compagnie, on s'est dit, bah, on va garder ce nom-là. Bon, bah, c'est bien parce que on n'est pas bardé de certitudes. Après, il faut pas que dans le doute, on s'abstienne. Il faut quand même être audacieux.
Prendre la parole. Voilà, ouais. On va en parler dans quelques instants de cette aventure. Juste une question. Quand vous dites fils artistique, ça veut dire quoi pour vous, Jean-Marc Dumonté, fils artistique?
C'est que c'est très particulier, extrêmement personnel et intime. Quand vous avez des enfants, vous vous rendez compte à quel point vous êtes ému par eux, à quel point vous vivez par eux et pour eux, et à quel point tout ce qui les touche vous touche profondément. Et j'ai ça avec Alex. J'ai ça avec Alex, qui est un artiste insensé, incroyable, capable de tous les défis, de tous les paris. Et oui, je ressens les mêmes émotions que si c'était mon fils, mais c'est mon fils artistique. Voilà, ça exigeait une petite explication, autrement c'était pas assez clair.
Donc, le projet s'appelle
Parole citoyenne.
Parole citoyenne.
C'est 10 spectacles, et le prochain, c'est dimanche, L'être ou pas, avec Arditi et Russo, un texte de Jean-Claude Grimbert sur l'antisémitisme. C'est une magnifique réponse à la bêtise, et c'est très drôle. C'est-à-dire que Grimbert va décrypter tous les clichés antisémites.
Tous les clichés, il va tous les décliner.
Et il va les faire tomber l'un après l'autre.
Et c'est autour justement d'une sorte d'escalier.
Oui, c'est autour d'un escalier. Ouais. C'est deux voisins de palier qui se retrouvent. Un Arditi qui est vaguement d'origine, j'allais dire d'extraction, d'origine juive. Oui, ses grands-parents étaient juifs. Lui, bon, ok, il a un peu oublié tout ça. Et en revanche, il a un voisin interprété par Daniel Russo. Allez, on va dire un français de base, enfin un lambda, dont la femme s'intéresse beaucoup et fait des recherches effrénées tous les soirs sur Internet pour savoir ce qu'est être juif. Et ça commence comme ça. Russo croise son voisin de palier, donc dans la cage d'escalier, Arditi, et lui dit « Mais vous êtes juif ?» Alors Arditi est un peu surpris par cette question saugrenue, et lui dit « Oui, enfin peut-être. Non, mais vous êtes juif. C'est quoi être juif ?» Et Arditi, vraiment, qui est pris de court, lui dit « J'en sais rien. » Enfin, et l'autre lui dit « Je le savais bien. On m'avait dit que vous vouliez rien partager. » Et ça part comme ça, la pièce, voilà.
Vous savez bien le texte, parce qu'en plus, c'est véritablement le texte. Jean-Marc Dumonté, je vous propose un autre métier. Chroniqueur théâtral. Ça serait parfait aussi dans le NRV. Donc la programmation se poursuit jusqu'au 25 mars à Paris. Tout de suite, en plein marasme Brexit, c'est le retour plus que bienvenu de The Specials avec un nouvel album encore.
Too easy to see through. Not the best of places to start. justice isn't gold. You're also drunk on money and power inside your ivory tower. Teaching us not to be smart, making laws that serve to protect you, but we will never forget that you tore our families apart. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold.
Inter.
Qui va venir parmi nous, qui va venir construire avec nous ce projet qu'il a à cœur de redémarrer quand même dans la vie après une période plus ou moins longue de chômage, on peut le dire, voilà.
Le nouveau rendez-vous.
Il va se projeter sur une page blanche et nous on va l'aider à cela grâce à des méthodes bien managées, bien gérées, bien orchestrées, bien processées.
Laurent Goumard.
Un extrait de La Légende de Bornéo, votre pièce Simon Bacouche. Vous êtes acteur et membre du collectif L'Avantage du Doute. Ce qu'on vient d'entendre, on dirait presque Nicole Ferroni. Vous savez, de France Inter.
J'aurais dit exactement ça.
Ouais, Jean-Marc Donnet. Et pas du tout. C'est qui?
C'est Claire Dumas qui fait une improvisation tous les soirs sur le thème du Pôle emploi. Donc, c'est le moment d'improvisation dans le spectacle puisque le reste est,
le
très,
reste
écrit.
Est très écrit, super écrit.
Et là, elle fait une improvisation fabuleuse qui peut durer plus ou moins longtemps ou en partant de matériaux bricolés, elle monte à un guichet de Pôle emploi en équilibre qui peut devenir un guichet de banque parce que tout se ressemble un peu. Et après, bon, ça prend des dimensions un peu kafkaïennes. Elle cherche, pour finir, elle cherche un dossier d'un gars qui l'appelle parce que il râle et elle trouve plus son dossier. Donc, elle va le chercher à la fin dans une espèce de décharge à ciel ouvert. Et ça finit.
Pourquoi ce moment-là d'improvisation alors que tout le reste est écrit pour La Légende de Bornéo?
Ben, en fait, on travaille en écrivant chacun un peu notre partie.
Et vous après, avez aussi la partie de l'acteur qui raconte toute sa vie passée.
Ouais, voilà. Donc, en fait, et après on colle, on fait un collage, on fait un montage en essayant de que ça qu'il y ait une dramaturgie et que ça soit intéressant. Mais donc chacun propose en gros sa partie. Et donc Claire, qui est la seule vraie improvisatrice de notre compagnie, elle a proposé ça. Donc elle s'est fait aider par Judith et elle a
Judith Davis. Ouais.
Judith Davis et voilà. Et donc ça donne un moment savoureux et assez physique parce que souvent on parle dans nos spectacles, donc c'est bien qu'il y ait aussi
cette physicalité.
Il y a de la danse aussi à un autre moment, enfin,
vous n'êtes pas très improvisateur vous comme acteur? Simon Bacouche, non,
je suis moyen en fait. On a tous essayé d'y passer, on en a déduit que Claire c'était la seule vraiment qui avait la capacité. Moi j'aimerais bien mais je me suis bon je...
ça suit pas.
je pense que je dois être trop lent dans ma tête alors qu'elle est très très rapide pour tout quoi, et en plus elle a une démarche cherche, c'est-à-dire qu'elle vient au théâtre, elle arrive elle fait exprès d'aller dans le couloir et d'arriver à la dernière seconde pour être vraiment en déséquilibre et de pouvoir prendre tout ce qui se passe, quoi. Moi, je trouve que c'est la bonne démarche et j'aimerais être comme elle, mais non.
Vous arrivez très en amont.
Moi, j'arrive en amont.
À la Michel Bouquet, vous vous installez dans les décors.
Non, faut pas exagérer.
La pièce reprend à partir du 19 mars au Théâtre de l'Atelier. Un mot sur le titre, La Légende de Bornéo, pour une pièce sur le travail.
Ouais. En fait, ça s'appelle La Légende de Bornéo parce qu'il y a une légende à Bornéo qui dit que les orangs-outans savent parler mais qui se taisent de peur qu'on les fasse bosser. C'est ça. Donc on a voulu... C'est vrai que si on avait appelé ça la toyotisation de l'humain, on commence à standardiser la vie dans un but lucratif, le public serait pas venu.
Nouveau, je pense que donc, pas tout de suite, en tout voilà, cas. Alors, il aurait fallu un bon bouche à oreille pour savoir ce qui s'est passé.
C'est un titre plus sexy et drôle, parce qu'on veut, qu'il y ait de l'humour. On veut que les gens soient pris aussi par ça, parce que les sujets sont plus assez graves, finalement. Donc on les cueille par le rire. Un rire sain, pas un rire cynique. Et souvent, ça se termine par un trou d'air, une dépression dans lequel on y va tous, quoi, où il y a une émotion. Bon, c'est souvent ce schéma-là.
Alors vous intervenez dans plusieurs scènes, notamment au début, mais aussi autour d'un passé d'acteur. Ce que vous racontez, c'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire que pendant que je regardais ça, après j'ai regardé sur Internet pour vérifier si les titres étaient les bons ou pas. Il y a des pistes quand même.
En fait, oui, à un moment je raconte ma vie d'acteur, mais elle est bien inventée.
Elle est bien inventée, il n'y a rien.
Mais en fait, je me suis servi d'un documentaire, c'est pour vous dire comment on passe.
Comment on travaille, puisqu'on bosse, on lit tout,
on voit tout, on regarde les films, les documentaires. À un moment, je suis tombé sur un documentaire qui s'appelait « Métal et mélancolie » et qui se passe au Pérou. Et donc à Lima, il y a des bon, ça date de dans les années 90. Donc il y a des gens comme c'est très pauvre qui sont obligés de faire les taxis avec leur voiture. C'est pas Uber, hein, ils astiquent leur vieille voiture et ils se font une deuxième journée de travail. Et là, il y avait un type qui donc c'était le réalisateur du documentaire était pris, je crois que c'était une réalisatrice, était prise par ce taxi-là. Et donc, il commençait par proposer des biscuits que sa femme avait fait, et éventuellement, si ça l'intéressait, d'acheter ces biscuits. Et ensuite, lui avait été ancien acteur. Et il racontait un peu toutes ces histoires. Donc, moi, je me suis servi de ça, personnage est un personnage à la retraite, un comédien à la retraite. Bon, évidemment, je pouvais pas conduire un taxi. Donc, en fait, je suis devenu, pour faire des heures supplémentaires. Enfin, je suis obligé de travailler en plus pour pouvoir m'en sortir, vu ma retraite. Et donc, je fais un stage en esthétique, donc j'épile les jambes des spectateurs. Donc, et finalement, enfin, je propose ça du moins, et finalement, on dirait que
vous épilez en direct.
Mais en même temps que j'épile, je raconte ma vie d'acteur, et donc ça finit pareil dans un trou d'air un peu dépressif. Ouais. Mais bon, c'est très drôle.
Alors, juste une question par rapport à TG Stan tout à l'heure. Vous parliez de cette compagnie que vous connaissez, Jean-Marc Dumontet.
Oui, mais beaucoup moins que lui.
Ouais. Vous connaissez Manuel Lamont. Oui, qui ont un principe très très. Enfin, le quatrième mur a été cassé depuis très longtemps. Ils ne font pas de répétition à table. Simplement, ils savent leur texte, et le jour de la première, il n'y a pas de mise en scène préétablie. Ils arrivent sur le plateau. Et ça commence. Bon, c'est quelque chose que vous mettez en place aussi pour votre propre collectif.
Bon, disons que ça nous a beaucoup inspiré. Je pense que ça a inspiré beaucoup de gens dans le théâtre. Ça a été un espèce de choc.
Ça a libéré pas mal de collectifs. Les Chiens de Navarre, plein de gens comme ça. Ouais.
Donc oui, on a essayé. Alors, ce qu'on fait de différent des TG Stan, c'est que nous, on part pas... Eux, ils partent toujours de textes écrits, soit des textes classiques, soit des... Maintenant, il y a des auteurs qui écrivent pour eux, mais ça part toujours de textes écrits, tandis que nous, on a eu l'ambition d'écrire nous-mêmes nos textes, alors qu'on n'était que acteurs, donc c'était pas évident, mais...
Pourquoi vous aviez cette ambition-là, justement, pour ce collectif? D'abord, il est né quand?
Il est né il y a une douzaine d'années. Les dates, c'est pas hyper précis, mais ça doit être ça, à peu près.
D'accord.
Une douzaine d'années.
Okay.
Et donc, en 12 ans, on a fait trois spectacles. On est très lent. Ça met au moins trois ans à écrire un spectacle. Parce que, il y a tout ce travail de documentation, de réflexion, de cuisine, enfin, bref. Et donc, on a fait trois spectacles. Et puis, un spectacle pour les enfants. Et là, il y a eu le film de Judith aussi.
De Judith, qui s'appelle « Tout ce qui me reste de la Révolution ». De Judith Davis, est actuellement en salle. Et je crois que le titre, normalement, c'était « Tout ce qui me reste de la Révolution ?» Point d'interrogation. Et réponse, Simon.
Ouais.
Vous étiez la réponse à cette question. Ça veut dire quoi?
C'était le premier spectacle qu'on a fait. C'était sur l'héritage de mai 68. Donc voilà, c'était une nécessité pour, puisque je suis la seule personne âgée de ce collectif. La vieillesse nous saisit à l'improviste, comme disait Simone de Beauvoir. Et voilà. Et donc, les autres acteurs de la génération donc en dessous voulaient absolument parler de ça, parce que c'était quelque chose d'important pour eux, une référence. Et donc moi j'avais pas trop envie, j'aime bien avancer, pas trop regarder derrière, mais finalement, comme c'était à la demande générale, j'ai dit d'accord.
Vous étiez qui en 68, vous?
J'étais engagé, j'étais militant, j'étais maoïste en fait, j'étais très engagé, très à gauche.
Et tout le panel politique est réuni ce soir, le militant maoïste.
Donc ouais. J'ai même travaillé, je me suis même établi en usine, j'étais loin. Et donc le premier spectacle, ça s'appelait Tout ce qui nous reste de la Révolution, c'est Simon.
Voilà. Ça, je peux imaginer. Simon Bacouche, ouais.
Et en fait, c'était un peu le mythe. J'étais devenu un mythe, en fait. Les gens, les acteurs me racontaient, se mettaient autour de moi. Moi, je dansais un peu comme Mick Jagger, mais j'étais très essoufflé à la fin. Et après, les autres acteurs se mettaient autour de moi et disaient au public, c'est Simon. En fait. Et donc, ils parlaient, ils inventaient mon histoire. Et moi, je disais rien. Bon, voilà, c'était ça un peu le mythe de 68. Pardon.
Jean-Marc Dumonté. Travailler en usine, vous dites. Et ensuite, comment vous basculez comédien ?
Nouveau métier pour Jean-Marc Dumonté, journaliste, c'était exactement la question que je voulais poser.
Il y a eu des choses assez dures qui se sont passées, parce que ça a été des moments aussi exaltants, mais aussi angoissants de vivre tout ça. Bon, j'en suis sorti, il y en a qui sont restés. Finalement, après, il y a eu... j'ai travaillé une année en 3-8, mais c'était déjà un peu fini. Mais j'ai voulu finir en allant me rendre compte par moi-même ce que c'était la condition ouvrière. Et après, je suis parti. Donc des fois, c'était comme je travaillais en 3-8, c'était des fois, je sortais de l'usine et je m'endormais dans ma voiture 20 mètres plus loin. C'était très riche. Après, je suis parti en vacances. C'était à l'époque, on commençait à être baba cool. Je suis parti au Maroc, je fumais, prendre du LSD. Enfin, tout ça, cette expérience qui complétait un peu notre envie de se libérer, et puis après à la rentrée, j'étais devant l'usine et là j'ai regardé le jour se lever, j'étais sur un banc à côté d'un vieil ouvrier algérien, j'ai fumé un joint et là je me suis dit non, je vais pas y retourner. Et à ce moment-là, je suis parti voir un copain et qui lui aussi avait travaillé, qui avait repris sa compagnie, parce qu'il travaillait avant les événements, il travaillait au théâtre.
Ouais.
Et il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je dis rien, je viens de quitter l'usine, puis ça te dit de faire du théâtre. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai dit pourquoi pas. Et donc j'ai commencé comme ça. Puis après j'ai trouvé ça gay. Je refais ça gratuitement. Et finalement, j'ai appris un peu sur le tas. Ouais. Je me suis lancé. Ouais.
J'ai envie de dire comme vos collègues sur scène, c'est Simon. C'est l'histoire de Simon. On vous a demandé aussi un son et vous avez choisi un son, on va dire, personnel, familial, Simon Bacouche.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on entend, Simon Bacouche, qui vous touche à titre personnel?
Ouais, en fait, c'est difficile à cerner, mais en fait, c'est la fin du premier mouvement de La Mer de Debussy, donc c'est un mouvement assez lent et majestueux, et vers la fin, ça s'excite complètement, et d'un seul coup, il y a une musique intense avec des cymbales. Et en fait, c'est là où je voulais en venir. Bon, mon grand-père, en fait, qui n'était pas mon vrai grand-père, mais mon grand-père était un chef d'orchestre réputé. Et en fait, quand on était petit, avec ma sœur, qui a 2 ans de plus que moi, c'était le concert était obligatoire, mais on aimait bien. Ce qu'on aimait moins bien, c'était le côté un peu guindé. Il fallait s'habiller et c'était assez guindé dans la salle. Bon, je pense que ça a changé. Et je dis pas qu'on s'ennuyait ferme, mais parce qu'on aimait bien voir notre grand-père et on était quand même impressionné par la musique. Mais il y avait un moment où, d'un seul coup, le gars qui allait faire les cymbales se levait pour se préparer à jouer. Et là, avec ma sœur, on se donnait des grands coups de coude et on attendait ce moment-là avec, euh, avec, euh, un grand plaisir. Et là, il tapait ses cymbales et ensuite il les faisait taire en les appliquant sur sa poitrine. Et là, avec ma sœur, on éclatait de rire. Et en fait, j'ai voulu parler de ce moment-là parce que j'avais envie d'en profiter pour rendre un hommage à ma sœur, avec qui je suis très proche et qui est une personne extraordinaire, très joyeuse. Et voilà, j'aime beaucoup ma sœur et j'ai de la chance de la voir. C'est le lien de la famille. C'est elle qui tient la famille et qui s'occupe de tout grâce à elle. La famille existe puisque vous savez que dans mes années 70, la famille, c'était un peu une valeur bourgeoise.
Vous en êtes bien revenu,
manifestement.
Voilà, voilà. C'est Simon. Simon Bakouche, que l'on peut retrouver donc au théâtre dans La Légende de Bornéo à partir du 19 mars au théâtre de l'Atelier à Paris et au cinéma dans Tout ce qu'il me reste de la Révolution de Judith Davis. On va se quitter. Merci à vous trois. Merci Jean-Marc Dumonté. Merci Simon.
Merci à vous.
Plus Simon Bakouche. Merci Simon. Merci Emmanuel Hamon. On se quitte tout de suite avec The Police, une histoire de lit trop grand, Beds Too Big. Without you. Le lit est trop grand sans vous, mais il n'est pas l'heure d'aller se coucher. Le NRV, première partie, c'est fini. Et on se retrouve dans 15 minutes après le journal avec ça.
Maman est restée 2 jours entrant en agonie et personne n'a été attentif à ça. Un animal, on en prend plus soin.
Dossier EHPAD, mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon vieux ? Le rendez-vous est pris ? Alors à tout de suite.